j'ai toujours su que j'étais adoptée. Depuis que j'ai été en âge de comprendre, je l'ai su. Donc j'ai toujours vécu avec cette idée que j'étais adoptée. J'ai vécu toute ma vie, de petite enfance, d'adolescence et même presque d'adulte, sans que mes parents m'en parlent vraiment. Je pense que pour eux, j'étais leur fille et puis point final, quoi. Maman m'a toujours parlé de cette adoption. Quand il y a une procédure d'adoption, il arrive un moment où l'assistance publique prévient les futurs parents qu'il y a des petites filles à disposition. Donc il y en avait deux dans la Nièvre, là où j'étais en famille d'accueil. Et mes parents sont donc allés là-bas et puis il y a eu vraiment quelque chose de très très important au moment où elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit que elle, en tout cas, c'est elle qui a choisi sa petite fille. Donc franchement, il s'est passé quelque chose en elle. Elle disait pratiquement, une maman qui accouche, oui, elle a les douleurs, mais moi j'avais que la joie. C'était moi et c'était plus une autre. À partir du moment où je me suis blottie dans ses bras, elle a senti que voilà, le contact se faisait dans les deux sens. Voilà, donc c'était réciproque. Elle imaginait sa petite fille comme ça et je répondais tout à fait à ses attentes.
Rosa, l'enfant perdu de la famille Kreutzer. Un documentaire de Florence Quille, réalisé par Laure-Hélène Planchet. Premier épisode sur les traces de Véronique Kreutzer.
Ce qui l'a frappé humainement, c'est que j'étais dans un lit à barreaux alors que j'avais 2 ans, donc il était grand temps quand même qu'on me sorte de ce lit.
Françoise Boitel, consultante en ressources humaines à Lille.
Et elle a vu que je me tapais la tête toute la journée sur les barreaux, et ça l'a effrayée. Elle m'a dit, il fallait que je t'adopte très vite pour te sortir de ce lit, et que t'arrêtes de te taper la tête. Et du reste, je me suis tapé la tête pendant des années. Pour m'endormir, je me suis bercée pendant des années. C'était ma façon à moi de combler certainement un manque affectif, voilà.
Administration générale de l'assistance publique à Paris. Sous-direction de l'assistance à l'enfance. Nom, Kreutzer. Prénom, Rosa. Date de naissance, 13 décembre 1951. Âge, 17 mois. Numéro de matricule, 270-186.
Maman était très affectueuse, vraiment faite pour avoir des enfants. Quand je suis arrivée, j'étais collée à elle. Elle me racontait toujours que quand elle devait aller chercher mon frère en bas de la maison, puisqu'on lui ramenait mon frère de l'école, elle pouvait pas me laisser 2 secondes dans la maison, il fallait qu'elle me prenne, parce que bon, j'étais toujours main dans la main avec elle. Donc elle, une personne très affectueuse, très tactile. Mon père, et j'ai toujours tendance à dire mon père et pas papa, je sais pas pourquoi, c'est peut-être inconscient. Mon père était un ancien colonel, donc assez rude, mais bon, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, un pilier quoi. Un homme qui me sécurisait, qui devait sécuriser aussi son épouse qui, elle, était plus fragile, mais très sévère, à cheval sur les principes, très normatif, voilà.
Vous avez eu une enfance heureuse ?
Avec le recul, je peux dire hyper heureuse parce que aucun souci, pas assez libre parce que j'avais besoin de liberté, j'étais hyperactive en fait. J'avais une école qui ne me correspondait pas, j'étais à Neuilly, dans une école assez stricte, bon, il fallait qu'on me dresse en gros. J'allais dans tous les sens, j'aurais été beaucoup plus heureuse si j'avais pu être libre. Or j'étais très contrainte, surtout avec mon père. Donc ça m'a contrariée pas mal. Donc si c'est ça le bonheur, si c'est ça être heureuse, oui, j'ai eu tout ce que je voulais. J'avais des parents qui avaient de l'argent, donc ils pouvaient m'offrir tout ce que je voulais, mais avec une éducation très stricte. Donc on avait de l'argent, mais on nous a donné la notion de l'argent, justement. Mais contrariée par rapport à ma profonde façon d'être, dans mes origines profondes humaines, quoi. Non. Non, jamais j'ai eu l'envie ni le besoin de connaître ma mère biologique. Jamais, jamais. Au départ, jamais. Jamais. On était bien, on ne se posait pas de questions. Je dis « on » parce que mon frère est dans la même situation. Donc, on est deux enfants adoptés. Et lui, ses origines, il ne veut pas les connaître. Non, et puis c'était un sujet tabou pour moi. Et puis, en même temps, j'en étais pas fière. Je reconnais, je voulais être comme tous les autres enfants. Et je ne parlais pas d'adoption. Et quand on me disait « oh, ben c'est bizarre, t'es pas comme nous », parce que bon, je suis quand même assez typée, il faut le dire. Moi, j'avais un petit côté fripon, un petit côté qui faisait penser que bon, je pouvais venir d'ailleurs. Et on m'a posé des questions. Les autres enfants me posaient des questions, en demandant mes origines. Et ça, ça a été pratiquement toute ma vie. Jusqu'à ce que j'ai une réponse. On pensait que j'étais maghrébine. On me demandait de manière assez détournée si je faisais le ramadan, des choses comme ça. Mais moi, j'ai pas posé de questions à mes parents sur l'adoption. C'est un sujet, voilà, qui est un peu gênant pour tout le monde, je crois. Aussi bien pour moi que pour eux, donc on posait pas de questions. Voilà, on n'en parlait pas.
Dès le départ, dès notre rencontre, très vite, moi j'ai su qu'elle était une enfant adoptée.
Philippe, mari de Françoise.
Elle m'avait dit qu'elle était d'origine italienne parce qu'elle pensait qu'elle était d'origine italienne. Plusieurs fois, je lui avais dit, mais peut-être ce serait bien que tu fasses des recherches. Connaître tes origines, est-ce que tu crois pas que ça serait bien pour toi, etc. Et elle ne voulait pas. Mais quand on a eu des enfants, moi je souhaitais qu'elle leur en parle, enfin qu'on les mette au courant. Et elle ne souhaitait pas. Je pense qu'elle avait des craintes, probablement. De toute façon, moi je me souviens très très bien du jour où elle me l'a annoncé. Elle avait une crainte terrible que je la rejette, quoi, à cause de ça. Et je pense que par rapport aux enfants, elle avait cette crainte.
Il y a quand même une certaine appréhension quand on part dans une démarche comme ça, c'est quand même l'inconnu. Et donc, quand on rencontre l'inconnu, ça veut dire que c'est très anxiogène, c'est angoissant, il y a une peur. Mais en même temps, il y a une certaine curiosité que j'avais envie d'assouvir. Cette curiosité, finalement, était plus forte que cette peur et cette appréhension, puisque je suis allée au bout. Qui vais-je découvrir? Mais c'était pas sans crainte. Et puis alors, ma première peur, c'était comment je vais être accueillie? Est-ce que je ne vais pas être rejetée? À 59 ans, 60 ans, est-ce que je vais subir le choc, ce choc émotionnel? Est-ce que j'étais prête à le faire? Oui. Et je me disais, ma famille, comment va-t-elle le prendre? Mes enfants.
L'adoption de ma mère, c'est un sujet qu'on n'évoquait pas.
Thibaut, fils de Françoise.
Moi, personnellement, je l'ai appris tard. C'est mon père qui me l'a appris. Moi, c'est plus le timing qui m'a un peu surpris. En gros, je pense de mémoire qu'elle a entamé les démarches quasiment suite au décès de sa maman adoptive. Mais je me posais pas trop de questions, en fait, à ce sujet. C'est devenu un sujet à partir du moment où elle a entamé les recherches.
Et puis, il est arrivé une chose incroyable, ça fait partie de la première coïncidence. J'ai fait une demande de carte d'identité. Bon. Donc, je vais à la mairie de Marcq-en-Barœul, puisque j'habitais là à l'époque. Et la dame me dit, vous inquiétez pas, je vais faire tout le nécessaire auprès de la mairie de Paris pour avoir votre certificat de naissance. Et puis, je vous tiens au courant quand votre carte d'identité sera prête. Très bien, moi, je ne m'occupais plus de rien. Et puis, un jour... Cette dame m'appelle en me disant, voilà, tout est prêt, tout est fait. Donc, je vais chercher ma carte d'identité. Et dans les papiers qu'il y avait, il y avait mon certificat de naissance, mais intégral. Ce qui n'est jamais arrivé. Bon, déjà, incroyable. C'est très bien. Mon mari lui rentre, il regarde cet extrait de naissance. Dieu soit loué qu'il ait regardé. C'est grâce à lui. Je me dis donc, t'as vu, il y a une mention marginale en disant que tes parents biologiques t'ont reconnu. Je dis, comment est-ce que c'est possible? Puisque j'étais adoptée, c'est pas possible. Donc, déjà, deuxième coïncidence, parce que la première, c'est déjà d'avoir reçu cette copie intégrale. Deuxième chose, cette reconnaissance qui n'existe jamais. C'est interdit. Puisque j'étais adoptée déjà depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'ils ont fait cette recherche, mes parents biologiques, en 58. Donc, soit 7 ans après ma naissance, ils sont retournés à la mairie où ils m'ont déclarée. Et ils ont dû, peut-être avec de l'argent, se doyer le fonctionnaire. Et il a rajouté cette marge qui est carrément illégale. Donc mon mari me dit, dans la mesure où tes parents ont fait une reconnaissance, ils t'ont recherché. Donc il n'y a pas d'abandon, c'est plus pareil. dans les blessures de base, il y a entre autres abandon et rejet. Et moi, je me pensais abandonner et rejeter. Or, abandon, il y a eu, mais rejet, non. Donc, ça change tout. Donc, mon mari me dit, écoute, réfléchis quand même un peu à ça, parce que ça veut dire qu'il y a eu peut-être quand même des problèmes chez eux. Mais après tout, on ne sait pas, quoi. Il faut aller voir maintenant. Donc, je réfléchis pendant un certain moment. Et puis, je me dis, bon, comment je vais bien pouvoir faire pour commencer à chercher. Première chose, je suis née dans le 12e, je vais essayer de téléphoner dans cette mairie du 12e pour savoir s'il y a possibilité d'aller dans les archives. Donc j'appelle la mairie qui me dit « Mais oui madame, évidemment ce qu'il faut c'est nous prouver qui vous êtes. Donc vous m'envoyez votre carte d'identité, vous m'envoyez tout à la mairie et moi je fais ce qu'il faut pour vous renvoyer ce que j'ai. » Bon. Et puis, en effet, un jour, je reçois donc un petit dossier me disant au moins qu'ils avaient retrouvé ma mère et ils m'ont précisé son nom et sa date de naissance. Donc, j'avais déjà un peu plus d'informations. Ma mère, au moment où elle m'a abandonnée, elle a signé un papier en disant qu'elle autorisait l'administration à s'occuper de moi au niveau médical. Bon, mais c'est tout. Mais il y avait son nom, Véronique Kreutzer. Toujours est-il que j'ai reçu son acte de naissance avec toutes les origines. Donc, j'ai des grands-parents allemands. Donc, là, je me retrouve donc en possession de ce fameux extrait de naissance, donc le sien. C'est bien, j'ai ça. Maintenant, je fais comment ?
À l'hôpital, je voyais que les patients avaient toujours leur nom de jeune fille. En fait, souvent, les gens sont hospitalisés sous leur nom de jeune fille. Donc, j'avais dit à maman, cherche par la sécu.
Stéphanie, fille de Françoise, infirmière en psychiatrie.
Même si elle s'est mariée, de toute façon, la sécu la retrouvera toujours avec son nom de jeune fille. Donc, il n'y a que la sécu qui peut t'aider à la retrouver.
Oh, j'ai la sécurité sociale. Puis d'un seul coup, je me suis rappelée que moi, j'avais travaillé pas mal pour la sécurité sociale. Et j'avais des personnes assez haut placées dans l'administration, à la Caisse régionale d'assurance maladie. Et heureusement, j'avais gardé deux noms. Alors, il y avait un monsieur et une dame. Je vais plutôt prendre la dame. Donc je l'appelle, j'ai un petit service à vous demander, et je lui explique donc l'histoire. Puis je dis là, je suis bloquée, je voudrais rechercher ma mère. Alors elle me dit, bon, je vais aller au fichier national, je vous rappelle. 10 minutes après, elle m'appelle. Elle me dit, voilà, ce que je vais vous apprendre est incroyable. Elle est malade, elle me dit, elle est bien malade, votre maman, mais elle est vivante. Ce qui est incroyable, elle était à 12 kilomètres de moi, à Wattigny. Et moi, j'habitais Marc-en-Barœul. Donc, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, j'étais pas quand même très, très bien. J'appelle Stéphanie. Elle revient chez moi, du coup, avec la nouvelle, et mon mari rentre. Il me dit, bon, alors là, ça se précise. T'as l'adresse, ça démarre sérieusement, qu'est-ce que tu fais ? Le cœur qui battait, je dis à Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est là qu'elle me dit, maman, fais très attention, tu vas bien. Psychologiquement, t'es très stabilisée, tout va bien, tout peut être démoli. Réfléchis bien. Alors j'ai dit oui, mais je dis maintenant, je suis allée trop loin, je vis jusqu'au bout. Et Stéphanie elle me dit, bon maman, je vais avec toi, je ne te laisse pas aller toute seule. On y va, puis on arrive rue Kléber, maison fermée, donc rien. Elle me dit, t'as vu la maison, c'est des gens riches. La petite maison toute triste, elle me dit, on en est loin. Hein. C'est pas possible que ce soit une petite vieille, comme t'avais dans l'idée. Je dis, je sais pas, parce que si elle m'a abandonnée, c'est qu'elle avait pas d'argent pour moi. Enfin, je m'étais monté tout un truc. Elle me dit, c'est pas le cas. Elle me dit, c'est pas ça. Bon, je vais aller voir la voisine. Et la dame me dit, très évasive, oui, ce sont des gens qui sont souvent partis. Ah bon ? Et je dis, je crois qu'il y a une vieille dame. Oui, oui, il y a une personne âgée, en effet, qui est là. Elle dit, il y a un monsieur qu'on voit régulièrement, mais on n'a pas plus d'informations. Donc, Stéphanie et moi, on repart, très déçue. Nous voilà encore une fois bloqués. Complètement bloqués, mais j'avais quand même l'adresse. Alors je me dis, ce que je vais faire, c'est finalement envoyer une lettre.
Madame, le 13 décembre 1951, à Paris 12e, est née votre petite fille Rosa Kreutzer. Pour des raisons que j'ignore, vous avez pris la décision de l'abandonner. 7 années plus tard, vous avez fait la démarche d'essayer de la reprendre avec vous. Malheureusement, cela n'a pas été possible, car elle avait été adoptée par une famille. Cette petite fille est devenue une femme. Et c'est elle qui, à son tour, fait la démarche de se rapprocher de vous afin de peut-être vous rencontrer et de vous raconter sa vie. Afin aussi que, de votre côté, vous puissiez lui raconter la vôtre. Elle souhaiterait, en effet, avoir des informations sur son histoire et ses origines. Je pense que vous avez compris que cette petite fille, c'était moi. Je ne peux vous donner mon identité actuelle, mais si vous souhaitez répondre à ma lettre, vous pouvez écrire à l'adresse de la directrice du Mouvement national de la recherche des origines qui me transmettra votre courrier. J'espère que vous considérerez ma lettre comme une bonne nouvelle. Car bien entendu, il ne s'agit pas de vous rencontrer pour vous faire quoi que ce soit comme reproche, ni demande particulière. Juste vous rencontrer pour vous découvrir. J'espère sincèrement avoir une réponse de votre part.
Pas de nouvelles. Bon, bah, c'est tout, elle me répond pas.
Dans cette attente, je vous adresse mes meilleures pensées.
J'avais quand même l'adresse. Donc une fois avec ma cousine, nous voilà partis là-bas, et puis on voit en face des caravanes. Donc on ralentit, et là, à ce moment-là, une dame sort, et elle me dit « Oui, vous cherchez quoi ?» Très agressive. Elle commence à taper sur la voiture et tout, et il y a un problème. Je dis « Bon, on s'en va. » Je raconte ça à mes enfants qui me disent « Maman, tu ne retournes plus jamais là-bas toute seule, il n'en est plus question. » Jusqu'au jour où j'ai insisté, puis je suis retournée voir la voisine. Je savais qu'elle me cachait des choses, donc je lui explique que je suis une enfant adoptée. Je raconte toute ma vie. Et puis son mari arrive, il me regarde, il me dit « Mais vous êtes de la famille avec ces gens-là » Alors bah, je dis « Écoutez, apparemment, j'en sais rien, je les cherche, je ne sais pas. » Oh, il me dit « Vous savez, vous n'avez rien à voir avec ces gens-là. Vous êtes sûre de vouloir continuer la recherche ?» Bah, je dis oui, je dis pourquoi ? Bah, parce que c'est quand même très spéciaux. Ils m'ont dit que c'était des gens du voyage. J'étais sous l'effet du choc. Puis je reviens, puis je dis ça à Philippe. Alors là, c'était quand c'est un bidule familial. Le mari de ma belle-sœur me dit « Écoute, là, c'est embêtant, parce que ces gens-là, on ne sait pas. Hein. Tu sais, vous êtes des gens quand même d'un certain milieu. Ils vont peut-être être attirés par ton argent. » Bon, alors on se pose des questions.
Là, ça a été le choc.
Philippe.
Parce qu'au départ, on s'était imaginé que ses origines, ses parents étaient des gens qui étaient probablement pauvres et que le motif de l'abandon, c'était ça. Tout au moins, on s'imaginait des gens dans une certaine misère sociale, probablement. Donc on se faisait une espèce d'imagination. Et là, évidemment, là, ça a été le choc. C'était inimaginable, en fait. C'était complètement inimaginable pour nous. Je crois qu'on a eu un peu peur, oui. Enfin, peur, personnellement, une méfiance, une énorme méfiance par rapport à ces gens pour lesquels on n'a aucun contact. Alors moi, j'avais eu de brefs contacts avec eux de par mon métier, puisque j'étais médecin généraliste. Et donc, j'étais rentré une fois dans un camp. Je me souviens, j'étais rentré avec ma voiture. Donc, j'avais garé ma voiture à côté de la caravane où j'allais. Et donc, il y avait une alarme dans ma voiture. Et pendant que j'étais dans la caravane, l'alarme s'est mise à couiner.
Donc évidemment, je suis sorti et j'ai trouvé des gamins dedans, quoi. Bon, alors voilà, c'est une petite anecdote qui va un petit peu dans le sens des a priori qu'on peut avoir par rapport à cette population, hein.
Et je mets un an à me décider à appeler. J'avais le numéro de téléphone, mais je n'arrivais pas à appeler. Il y avait tellement de gens autour de moi qui me disaient « non, faut pas le faire », enfin surtout dans la famille, que je ne l'ai pas fait. Puis au bout d'un an, il me prend une impulsion, j'appelle. Je tombe sur un monsieur et puis je me présente. Je m'appelle Rosa Kreuzer, puis je commence à décrire ce que je savais. Mais eux, ils se méfient toujours. Donc, il ne me répond pas au début, puis il me laisse patauger dans mon truc. Et puis, au bout d'un moment, heureusement, je lui dis, voilà, je n'ai pas de notion de mon père, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai mon grand-père qui s'appelle Nicolas Kreuzer et ma grand-mère s'appelait Marguerite Kreuzer. Et là, il a hurlé dans le téléphone, « Ah, ma sœur !» Et là, c'était le cri du cœur. « Ma sœur !» Ah, il me dit, ça c'est incroyable, on vous cherche depuis des années. Puis là, il commence à me dire que sa mère me cherchait. Et il me dit quand même au bout d'un moment, bon, ça vous effraie pas trop, vous êtes tsigane-rome. C'est quoi tsigane-rome? Il me dit, c'est autre chose que manouche. Alors, il me dit, je suis ton frère, donc je suis l'aîné. Et on est 11.
Et alors là, quand j'ai appris que l'origine était tsigane... Moi, j'étais pas convaincue par l'histoire, du coup. Parce que, au départ, je pensais que c'était, des gens comme nous, hein.
Stéphanie.
Donc, avec maman, on s'était fait un peu un film sur une petite vieille, sans argent, qu'on allait prendre dans notre famille. Et puis, quand on a appris que c'était des tziganes, après, bon, on a une mauvaise image de ces gens, et du coup, j'avoue que moi, j'étais plus du tout dans le trip de les côtoyer, ni de les retrouver, quoi. J'avais dit à maman, on laisse tomber. Je voyais pas comment on pouvait être avec des gens du voyage. Ça me semblait pas possible. Par peur et par méconnaissance de ces gens, en fait. Hein.
Au tout départ, j'étais pas forcément hyper prêt à les rencontrer.
Thibaut, fils de Françoise.
Je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être tôt par rapport au décès de ma grand-mère adoptive. Il m'a fallu quelques temps avant que je les rencontre. En plus, il y avait ce côté un peu intrusif. Peut-être que inconsciemment, c'était le fait que ça a remplacé quelque part ma famille adoptive, puisque en fait, on se rend compte du jour au lendemain, enfin au moment où on l'apprend, que tous nos cousins, cousines, enfin de ce côté-là, oncles et tantes, etc., on n'a pas de sang commun, quoi. Donc il y a déjà cette première découverte, et j'ai eu peut-être peur aussi que on allait s'éloigner de cette partie-là de la famille au détriment d'une famille que je connaissais pas.
La crainte qu'on avait, c'est de ne plus pouvoir faire marche arrière.
Philippe.
Parce qu'en fait, c'est un énorme point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a le risque de rejet, purement et simplement, le risque de négation, qui peut être un traumatisme pour celui qui fait les recherches. Et il y avait l'appréhension de rentrer en contact avec des gens avec qui on n'est jamais en contact, en fait. Jamais. C'est un monde qui est hermétique. Il faut être introduit, sinon il n'y a pas moyen de pénétrer, il n'y a pas d'interface. Hein.
Alors au moment où j'ai su que j'étais tzigane... J'étais complètement... quel monde! Moi, j'avais donc une idée à peu préconçue, quand même. J'avais des a priori sur eux.
Je suis tzigane. Je suis tzigane?
C'est l'inconnu. L'inconnu, c'est source d'anxiété. Mais à partir du moment où j'avais décidé cette recherche, je savais que ça pouvait être n'importe quoi. Mais là, tzigane, c'est pas du n'importe quoi, mais c'est du surprenant. C'est de l'improbable, c'est inimaginable, c'est extraordinaire. Après, quand j'ai su que j'étais tzigane, j'ai regardé un petit peu sur Internet ce que c'était. Ma mère est manouche, mais mon père est essentiellement tzigane. Et normalement, ils se marient pas entre eux. Ce qui fait qu'il y a toute une partie de manouche que je ne connais pas. Il y a tous les manouches qui savent que j'existe, mais ils me connaissent pas. Parce que je suis pas encore allée les voir. Il y a encore, peut-être 200, 300 personnes qui sont dans l'Est. Donc j'ai commencé à chercher ce que c'était que les tziganes roms. Et j'ai vu donc leur origine. J'ai su que c'était des gens qui viennent de l'Inde. Ça vient du sanskrit, leur romanesque, et que finalement, même d'un groupe à l'autre, eux, ils parlent romanesque, mais un certain romanesque. Donc, j'ai jamais pu apprendre leur langue parce qu'il n'y a pas de livre qui existe. Parce que d'un groupe à l'autre, ils se comprennent, mais ils n'ont pas tous les mêmes termes. Mais ils utilisent des mots français. Alors, pour revenir à la tziganie, le problème, c'est que c'était un monde complètement inconnu, j'en avais peur. très très peur. Je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Donc oui, j'avais très très peur. Tzigane, c'était pas tout à fait ce que j'aurais souhaité. Donc l'après-midi, il était convenu que ma sœur m'appellerait. Il y aurait donc une conversation l'après-midi. Donc l'après-midi, j'avais jamais donné mon numéro de téléphone, trop peur. Je les appelle. Et là, je tombe sur ma sœur. Et puis, au bout d'un moment, ils me disent « Bah oui, mais il faudrait quand même que tu appelles ta mère maintenant. » Ah, je dis « Oui. » Donc, j'appelle ma mère. Premier contact avec elle, c'est elle qui commence à me poser des questions. « Est-ce que tu as un mari ?»« Bah oui. » »« Est-ce que tu as une maison ?»« Bah oui. » »« Et ton mari, il travaille ?»« Bah oui. » »« Et qu'est-ce qu'il fait ?»« Il est docteur. » Alors là, « Oh là là, docteur !» Il me croyait déjà dans la rue, dans les caniveaux. Mais là, docteur et tout. « Ah bon Alors, est-ce que tu es heureuse? Tu as des enfants? » Enfin, elle me pose des questions. Donc, moi, pas très loquace, perdue, un peu choquée émotionnellement, bien sûr. Donc, du coup, elle me dit j'espère qu'on va se voir et tout ça. Bon, et puis, on raccroche l'une comme l'autre. Et moi, sans aller, le cœur qui battait. Donc, après, il m'a fallu du temps. Et puis, je me décidais pas. J'étais pas prête, il s'est passé 2 mois. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas donné mon numéro de téléphone, mais je m'étais acheté un autre téléphone et j'avais une carte. Donc il pouvait m'appeler sur cette carte. Et il m'appelle en me disant, dis donc, ta mère est quand même malade, faudrait peut-être te décider à venir nous voir. Et puis on se donne rendez-vous le 18 février.
C'était Rosa, l'enfant perdu de la famille Kreutzer. Premier épisode sur les traces de Véronique Kreutzer. Avec Françoise et Philippe Boitel, Stéphanie, Thibault et Thomas, leurs enfants, avec la voix de Lise Combe. Un documentaire de Florence Quille, réalisé par Laure-Hélène Plancher. À suivre, Retrouvailles en terre tzigane.